Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Capi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Dans les prochains jours, le nom du Premier ministre de la RDC sera connu. Selon certains cadres du FCC, la famille politique de l'ancienne majorité présidentielle, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déjà le nom de celui qui formera le prochain gouvernement. Le format, le profil ainsi que la mission assignée à ce gouvernement préoccupent au plus haut point la population. Selon vous, comment faut-il procéder pour former ce gouvernement de coalition nationale, tant entendu. À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous notez que vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Vous êtes nombreux à avoir lu et commenté ces programmes sur notre page Facebook. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents sujets soumis au débat. Merci également à toute l'équipe qui concourt à la production de cette émission, Polydor Basunga, Nico Kalambay et Piro Elamegi, sous la supervision de Martin Sebojangwe. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Labung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons Marcel Guetta Luisa. Marcel, bonjour.
Bonjour, bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Je suis très heureux de m'associer surtout à ce débat qui parle de ce gouvernement. Voilà comment un peu j'analyse parce que vous nous demandez, monsieur JR, du comment procéder. À mon avis, je pensais que comme ce gouvernement, c'est un gouvernement de coalition, il serait donc prudent de concilier les avis, les idéologies, les visions pour dégager et aussi les projets de société pour regarder dans la même direction. Les peuples, d'abord, à mon avis, devraient être les dénominateurs communs de ces deux partis. Alors, ils devraient également se départir de leurs égos politiques, sinon la crise politique sera au rendez-vous et nous continuerons à vivre dans une république de pandémonium et les panégyriques de l'avènement du gouvernement, du nouveau régime, seront...
Oui, Marcel, quand vous parlez de gouvernement de coalition, est-ce que vous avez les caractéristiques de ces gouvernements?
Bon, les caractéristiques, c'est-à-dire, c'est déjà quand vous voyez déjà que les caractéristiques, c'est parce qu'il y a déjà les accords. On dit maintenant là que c'est cash et FCC sont en accord, c'est-à-dire que c'est un gouvernement de coalition. C'est pour cela que j'ai dit que c'est un gouvernement de coalition, monsieur JR.
Tout à fait.
Donc, j'étais en train de dire que sinon, si alors on ne tient pas compte de cela, nous allons vivre dans une république de pandémonium et les panégyriques de l'avènement du nouveau régime seront un non-événement et les attentes du peuple congolais resteront, comme d'habitude, une lettre morte. Voilà. Maintenant, ma petite crainte est aussi, je deviens un peu pessimiste face à la formation du gouvernement dans cette coalition. Pourquoi? Parce que nous avons déjà vu la position du FCC qui nous brandit sa face et de quoi le FCC est capable de faire à partir des derniers scrutins, monsieur JR, vous-même vous en êtes témoin, dans les bureaux définitifs des assemblées provinciales et des sénateurs. Bon, qu'à cela ne tienne, restons un peu regardants, mais nous allons voir ce qui va se dérouler. Mais à entendre aussi ceci, quelque chose traverse mon esprit et me fait dire et voir le futur Premier ministre fictif. Faisons un peu en arrière pour faire une petite analyse, M. JR. En 2017, après signature des accords de la CENCO, il a été demandé au président des rassemblements d'envoyer un nom pour qu'il soit nommé formateur du gouvernement. Et si ma mémoire est fidèle, c'est l'actuel président de la République qui était plébiscité. Mais hélas, je suis dans une stupéfaction et très abasourdi que je suis de voir que l'actuel FCC hier MP qui mettait l'accent sur le pouvoir discrétionnaire du président de la République en lui présentant 3 à 5 noms pour son choix d'entre eux, puisse envoyer un seul nom aujourd'hui chez les présidents pour avaliser, entériner. Alors, où serait la place du pouvoir discrétionnaire du nouveau président qu'avaient les présidents partants?
Voilà, alors Marcel, je crois que sous le contrôle de notre invité, pour votre gouverne, il y a déjà quelques noms qui sont avancés, parce que les débats, c'est vrai, ça a tourné autour de ça, mais aujourd'hui, je crois, l'option est élevée, il y a quelques noms qui sont donnés au chef de l'État et qui va user de son pouvoir discrétionnaire pour en sortir, pour désigner un seul nom ou une seule personne qui prendra la destinée de ce gouvernement. En tout cas, sous réserve de notre invité qui interviendra tout à l'heure.
Merci. Alors, nous voulons parler alors du profil du futur gouvernement, du futur chef du gouvernement. À mon avis, il faudrait que nous en avons déjà parlé avec vous dans d'autres émissions. Il aurait fallu d'abord un type intelligent, compétent, performant, mais aussi un compatissant, Monsieur JR. Un type qui n'a jamais été cité ou impliqué dans les tueries, qui n'a jamais été aussi impliqué dans les pillages des ressources, qui n'a jamais aussi été cité dans des concussions et des corruptions. Un homme intègre et jouissant d'une moralité avérée.
Oui, mais est-ce que Marcel... Oui, Marcel, avant de vous libérer, parce que si on tient compte de notre régime politique, qui du reste est quand même mixte, hein, il faut les reconnaître, aujourd'hui à moitié présidentiel, à moitié parlementaire, donc c'est cette mixture de caractère politique de ces régimes, n'impose pas, selon vous, par rapport au format, tous ceux qui ont des forces politiques ou qui ont le poids politique au niveau du Parlement puissent être représentés au niveau de ces gouvernements.
Oui, qu'à cela ne tienne, Monsieur Juer, ça peut arriver comme cela, mais moi je pense que si c'est lui qui puisse passer, parce que pour l'instant nous avons besoin d'abord qu'on ait d'abord les futurs formateurs du gouvernement, mais qui doit bien entendu qu'il soit issu de quelque part ou que ce soit, ou d'ailleurs quelque part là, je ne sais pas moi, mais au moins qu'il puisse répondre Monsieur Juer à ses profils. Non, c'est un peu à cela. Alors, pour finir, j'étais en train de dire qu'il n'ait pas également d'antécédents de la mégestion ou de détournement des deniers publics, un indépendant d'esprit aussi, et surtout un conseiller du président qui se met dans la peau de la vision du chef de l'État pour ne pas ternir l'image de celui-ci. Voici un peu, en quelques mots, ma petite contribution par rapport à cette émission, Monsieur Gérard.
Merci beaucoup, Marcel. Coalition, pas cohabitation. Pour vous, en tout cas, il est temps qu'on puisse vraiment mettre un accent sur ceux qui vont bien diriger pour selon les attentes de la population. Merci beaucoup, Marcel. Alors, on va prendre Maître Machaka qui est à Lubumbashi. Maître Machaka, bonjour.
Bonjour Monsieur JR, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors selon vous, merci, comment faut-il procéder? Est-ce qu'il faut voir quel est le format, les formats de ces gouvernements et puis les profils et la mission assignée à ces gouvernements?
Oui Monsieur JR, avant de citer par là, je voudrais d'abord dire quelques mots. Vous savez Monsieur JR, pour parler de la coalition aujourd'hui, il faut quand même les deux parties parlent d'abord le même langage et qu'ils aient les mêmes ambitions politiques, puisque quand on voit les protocoles d'accord qui ont été signés entre FCC et CACH, est-ce que ils ont les mêmes ambitions? Il faut d'abord recourir aussi à l'histoire, M. JR, puisque aujourd'hui vous ne pouvez pas parler d'une coalition entre un républicain et un démocrate. Je crois qu'il doit y avoir toujours des interférences entre ces deux personnes. Hormis cela, M. Gier, nous avons aujourd'hui besoin d'une personne intègre, une personne qui doit mettre à côté les tendances politiques, une personne qui doit voir l'intérêt général de la population, M. Gier, puisque aujourd'hui, si quelqu'un qui est nommé par une tendance politique présentée, puisqu'on a proposé au président de la République, par FCC, le nom d'une personne qui doit former le gouvernement, est-ce que vous croyez que M. Gier, cette personne-là, doit aller à l'encontre de sa tendance politique? C'est ça les questions que nous posons, M. Gier. Quand cela ne tienne, il faut que la personne qui doit être nommée, qu'il y regarde l'intérêt de la population, qu'il voie comment est-ce que la population souffre, qu'il soit à mesure de convaincre sa tendance politique en prenant ses décisions qui doivent aller dans l'intérêt général de la population congolaise. Et l'autre, dans l'intérêt de sa plateforme, M. JR. Voilà au moins ma contribution à cette.
Merci beaucoup, Maître Machaka. 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
L'actualité en profondeur sur Radio Caprice et dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Honorable Dieudonné Mwenze, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur Gère.
Alors, vous êtes un des communicateurs de l'ancienne majorité présidentielle. Vous venez de suivre d'ailleurs les deux intervenants de tout à l'heure. Mais la grande question, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde qui attend le gouvernement, ce gouvernement qui sera composé, qu'on connaîtra dans les prochains jours, doit-il, en tout cas dans sa composition, tenir compte des forces politiques actuelles au niveau du Parlement?
Merci, Monsieur Gier, pour votre invitation. Mais je voudrais également saluer tous les auditeurs, les nombreux auditeurs de la radio Capi, hein, qui sont disséminés à travers la République et à travers le monde. Votre question est tellement pertinente que beaucoup aujourd'hui s'interrogent sur la configuration du prochain gouvernement devra refléter. Également la configuration des différentes forces politiques en présence au sein de l'Assemblée nationale aujourd'hui et même du Sénat. Je crois que la réponse, elle doit être positive dans ce sens que le gouvernement est toujours appelé comme l'émanation de l'Assemblée nationale. Et on ne peut pas ressembler à autre chose que à ce dont on émane. Donc, il s'agit réellement d'un gouvernement qui va pouvoir refléter la configuration actuelle telle que nous la voyons au sein de l'Assemblée nationale, où vous avez le FCC qui constitue pratiquement une majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi à côté du FCC, vous avez d'autres forces politiques, notamment le CACH, vous avez d'autres forces politiques comme la MUCA, ainsi de suite, et même des indépendants. Quand je parle des indépendants, c'est-à-dire des gens qui sont de petits partis, qui n'appartiennent ni à OFCC, ni à la MUCA, ni au CACH. Hein, ils en existent. Ce qui fait que nous allons pouvoir vivre cette configuration-là, mais ce qui est important, c'est d'avoir un gouvernement qui soit au service de la nation congolaise.
Alors, est-ce que d'autres facteurs ne peuvent-ils pas être pris en compte, notamment les facteurs historiques, idéologiques, culturels, qui déterminent tout de même le régime ou la nature des régimes politiques aussi? Parce que nous sommes là dans une coalition.
Oui, d'abord je dois rappeler que le FCC et le CACH, sur base du communiqué qui avait été diffusé, je crois, en date du 6 mars dernier, il était clairement dit, c'était une expression politique de ces deux familles politiques, de dire qu'ils pourront constituer ce qu'ils ont appelé la coalition gouvernementale. C'est-à-dire que nous allons avoir un gouvernement au sein duquel on aura d'une part les animateurs provenant de la famille politique FCC et d'autres animateurs provenant de la famille politique CACH. Donc ce sont les deux grandes familles qui ont accepté de former une coalition gouvernementale et de co-gérer le pays ensemble. Et ce communiqué avait d'ailleurs été signé par les grands responsables de ces deux familles politiques.
Est-ce que les deux familles...
Mais quand vous évoquez l'aspect des idéologies, oui, et des doctrines, je crois que ce sont des choses que nous connaissons dans ce pays. Ce n'est pas pour la première fois que nous allons pouvoir retrouver les gens de la gauche et de la droite. Nous allons pouvoir retrouver les libéralistes et les socialistes et même des capitalistes. Ça existe généralement, mais je crois que ce n'est pas ça qu'il faudra privilégier par rapport à la gestion de la chose publique. Donc ce qui est important, et nous le disons tous les jours, puisque nous sommes là dans une situation plus ou moins exceptionnelle, Monsieur J.R. Et je crois que vos auditeurs doivent le savoir, que nous sommes d'abord, selon la Constitution, dans un système de gestion semi-présidentielle conforme de l'État, mais nous avons également cette réalité que nous n'avons pas encore expérimentée depuis un temps dans ce pays. Bon, c'est vrai qu'en 1960, pour ceux qui peuvent encore se rappeler de l'histoire, il y avait une autre réalité où un président n'était pas de la famille politique des Lumumbistes et que l'élection était faite, je crois, au second degré à travers les parlementaires à son temps. Mais ici, nous avons pratiquement une expérience inédite où vous avez un président de la République qui a été voté, mais qui ne contrôle pas l'Assemblée nationale, qui ne contrôle pas le Sénat. Et je peux même ajouter, il ne contrôle pas les différentes assemblées provinciales, avec cette possibilité également de ne pas contrôler les exécutifs provinciaux des différentes provinces, hein, puisque ça va être vécu d'un moment à l'autre.
Oui.
Donc dans ces conditions-là, nous avons une grande difficulté, mais ce n'est pas une impossibilité, c'est une difficulté que l'on peut bien solutionner, c'est-à-dire permettre à ce que le président qui n'a pas la majorité au Parlement puisse collaborer avec un premier ministre qui, lui, a de l'assise au niveau du Parlement. C'est-à-dire c'est une forme de cohabitation entre un président d'une autre famille, pour le cas d'espèce c'est le cash, mais vous aurez un premier ministre qui vient d'une autre famille également, pour le cas d'espèce, c'est le FCC.
Voilà.
Donc,
c'est cette expérience-là
qu'il faut encourager.
Voilà. Alors, M. Dieudonné Mwenze, parce que là, nous sommes dans une coalition, on sait, en tout cas, dans la science politique, le régime, en tout cas, quand il s'agit de la coalition, le chef de l'État ne perd pas sa prééminence au profit du Premier ministre. C'est à ce niveau-là que j'insiste beaucoup plus sur l'idéologie. Quel est le projet de société qui sera mis au premier plan? Est-ce que c'est le projet de société du président de la République ou celui du Premier ministre qui du reste sortira de la majorité parlementaire?
Monsieur Gérard, il faut d'abord dire que il est vrai que nous allons avoir les deux animateurs provenant de deux familles politiques différentes, mais il faut préciser que le président de la République, comme institution, première institution du pays, devra pouvoir garder toutes ses prérogatives constitutionnelles et légales. Et je crois que ça doit être noté clairement comme ça.
Il a les prérogatives de nommer et de révoquer.
Il devra également jouir de toutes ses prérogatives telles que reconnues par notre Constitution et par les différentes lois du pays. Je crois que là, il n'y a pas de l'ombre possible. Mais lorsque vous revenez sur la gestion du pays, sur base de quel projet de société? Je crois, et comme je l'ai dit, nous sommes dans une coalition. Et lorsque vous êtes dans une coalition, ça veut dire que vous êtes obligé de mettre les énergies ensemble, mais aussi mettre les compétences ensemble et même les projets ensemble. Ça doit être compris comme ça. Il n'y aura pas un projet exclusivement du cash ou du FCC qui devra être exécuté. C'est impossible. Sinon, nous ne sommes pas dans une coalition. Si on est dans une coalition, on doit comprendre la quintessence et le sens profond de ce que signifie une coalition. Donc ici, comme j'ai dit, nous allons pouvoir mettre les énergies ensemble et toutes les compétences ensemble. Ça veut dire que le CASH va pouvoir décliner son projet de société et le FCC fera la même chose. Et on va trouver le juste milieu, faire une symbiose pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce qui va être dégagé soit un projet commun, mais qui soit toujours dans l'intérêt général de notre population.
Alors, juste une question avant de...
C'est que, également, à l'issue de l'exécution de ce projet, que tout ce soit comptable et redevable vis-à-vis de la population. C'est-à-dire que ce qui va sortir de l'exécution de ce projet va concerner les deux familles politiques. On va pouvoir revendiquer l'exécution de ce projet dans les deux camps, c'est-à-dire FCC et le CASH. Donc, pratiquement, c'est ce qui va se passer. Mais rassurez-vous que le FCC, déjà, avant d'affronter les dernières élections du 30 décembre, avait son programme et son projet de société. Vous l'avez entendu, tout le monde l'avait suivi lorsque notre candidat Ramazan Shadari le présentait, je crois, à Pullman Hotel. Mais aussi, nous avions appris que le CASH avait son projet de société et qu'il comptait exécuter une fois à la magistrature suprême. Donc, de ces deux projets de société, nous allons pouvoir ensemble, comme nous nous sommes mis d'accord pour une coalition gouvernementale, pouvoir dégager un projet commun et qui puisse permettre à ce que l'intérêt de la population soit satisfait. Mais ce qui est important, et c'est, je l'ai retenu, c'est que quand vous voyez les deux projets de société, et je crois qu'il y avait d'autres pratiquement comme des copier-coller, il y avait tellement de similitudes que vouloir dégager un projet commun ne sera pas une chose impossible. Ça sera, je crois, beaucoup plus facile.
Voilà, nous vous gardons en ligne, M. Dieudonné Mouenze. Il est temps d'écouter d'autres auditeurs qui nous ont rejoints aussi à ces niveaux du débat. Benjamin, vous êtes à Kindou. Bonjour, Benjamin.
Bonjour, JR, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution à cette émission?
Merci, JR. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre d'ouvrir une petite parenthèse avant d'entrer dans le sujet.
Oui, oui, rapidement, parce que vous avez deux minutes.
Oui, oui, JR, je voulais juste dire au monde et aux auditeurs de la radio Capi que Kindou, ça ne va pas avec les cas de pendaison d'enfants et de la justice populaire que la population de Kindou commence à utiliser ces derniers temps. Ça dégénère et nous demandons à la population à ne pas essayer de la violence.
Voilà. Allez-y pour la thématique.
Ok. Par rapport aux enjeux de l'ère JR, le peuple congolais, personnellement, j'émets beaucoup de doutes sur la mise en place du programme d'action de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que je prends comme un exemple, Félix, c'est l'engin qui utilise l'essence, les caches, c'est l'engin qui utilise le mazout. Et comme vous avez de l'essence et vous l'avez passé d'essence, vous pouvez mettre dans votre engin le mazout, ça va abîmer le moteur. Cache a son plan d'action qui n'est pas celui du FCC, et FCC a son programme qui n'est pas cohérent à celui du FCC et du CASH. Ça sera pratiquement impossible.
Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand vous parlez de cohérence, vous faites allusion à quoi concrètement dans ce programme?
J'ai fait allusion au passé, à la réalisation
du projet du passé. L'actif, vous voulez dire.
Oui,
oui. Et le passif, voilà.
FCC a échoué lamentablement à résoudre les problèmes et à émerger les pays. Et Félix Tshisekedi, en venant dans le pays, il a son programme d'action. Et vu qu'il n'a pas la majorité parlementaire, il s'incline et veut s'associer au FCC. Il aura du mal à mettre en place son programme parce que le fait de diluer son programme en y ajoutant des programmes du FCC, je ne sais pas si il pourra répondre
voilà, merci beaucoup Benjamin. Alors si je comprends bien pour vous, comme j'ai posé la question tout à l'heure à notre invité, des facteurs historiques aussi doivent être pris en compte dans la composition de ces gouvernements, parce que bon, finalement, s'il y a des questions idéologiques, il y a des questions des projets de société, pour vous, vous estimez que qu'on laisse libre les CASH proposer son projet qui doit être exécuté ensemble pour éviter finalement qui est l'échec collectif. Merci beaucoup, Benjamin. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, JR, et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Selon vous, comment faut-il procéder pour former ce gouvernement des coalitions?
Merci, JR, du verbe que vous m'avez. Je salue aussi M. Mouine, un des rares communicateurs de l'ancienne majorité, mais qui réfléchit pertinemment bien. Je pense hier, aujourd'hui, le gouvernement est urgent, il doit venir parce qu'on ne peut pas gérer sans gouvernement. Comme l'a dit M. Mouindé, c'est vrai. Moi, je compare la coalition à un mariage de deux personnes qui ont des comportements différents. On a l'homme qui est flegmatique et la femme qui est mélancolique. Du point de vue comportemental, ils ne peuvent jamais se marier. Mais puisqu'on se décide de se marier, on ne peut que supporter les uns les autres. Donc la coalition est normale, il se peut que ça se fasse. Mais par rapport à votre question pertinente, quels doivent être les profils des gens qui constituent le nouveau gouvernement? Quelqu'un l'a dit, nous avons besoin des gens compétents parce que la RDC se veut un pays techno-structuré. Qu'il soit IFCC ou des CASH, nous voulons des gens compétents. Je prends l'exemple de l'élection de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En tout cas, au-delà de tout ce qu'on peut dire, enfin, on a des gens qui ont été élus, un scientifique compétence. Mais là où les bas blessent chier, est-ce que cet idéal qui veut qu'on ait des personnes intègres, des personnes compétentes, des personnes honnêtes sera atteint? C'est là que j'ai rien seulement posé pour dire non. Ça fait très mal lorsque M. Mouindé dit que dans un régime parlementaire, le gouvernement est l'émanation du Parlement. Non, pas nécessairement. C'est le premier ministre qui doit être issu de la majorité parlementaire. Mais la nomination d'un ministre tient compte des profils. Je prends le cas du directeur des cabinets adjoints du chef de l'État, M. Bérin de Colonguel. Il n'appartient à aucun parti politique. Le président l'a nommé par rapport à ses compétences. Ce qu'on veut, c'est que et les FCC et les CARAS connaissent la majorité, connaissent la conscience politique. Si on doit seulement tenir compte des forces politiques en présence au Parlement, ce pays n'avancera pas. Nous voulons en ces jours, nous l'avons vu ici, en peu de mois, en moins de 100 jours, certains travaux ont été faits. Il faut qu'il y ait des gens munis de la bonne volonté de travailler, des gens qui ont la capacité d'organiser les choses. Si on s'en tient toujours à ce principe des forces politiques, qui n'est pas du reste un principe juridique, c'est un principe politique, rien ne marchera.
Oui, Maître Omar, juste une question de curiosité. Est-ce que vous ne redoutez pas comme, vous ne redoutez pas comme les autres, que dans cette coalition, on puisse avoir un gouvernement d'une taille éléphantesque, par exemple, ou un format auquel nous sommes habitués, par exemple, pendant toutes ces transitions depuis 2016, après les tractations ou le dialogue de l'Union africaine, on était à plus de 30, et après le dialogue de la CENCO, on est allé au-delà des 40. Bon, finalement, est-ce que vous ne redoutez pas comme les autres qu'on ait un gouvernement vraiment d'une grande taille dans cette coalition? Parce que tout le monde cherchera à se retrouver.
Nous devons redouter. Oui, vous avez vous-même dit, avant de poser ces actes gouvernementaux, on doit tenir compte des paramètres historiques. J'ai doute fort, et c'est ma crainte et le fantasme. Pourquoi? Parce que lorsque M. Mouindé dit on doit tenir compte des forces politiques en présence, il faut voir le nombre de députés et des FCC.
Donc ils auront pratiquement deux tiers de membres du gouvernement.
Donc, oui, on en appelle, oui, nous craignons. Il y aura certainement un gouvernement des fantasmes où tous ceux qui ont des forces politiques au niveau de la majorité voudront être nommés ministres. J'ai craint qu'on ne puisse pas tenir compte des compétences telles qu'on le veut, mais qu'on tienne compte de celui qui a 4, 5 ou 20 députés. Et avec cette allure, déjà, c'est un mauvais départ et rien ne marchera. Voilà pourquoi, pour conclure, moi, j'en appelle à la conscience politique et du cash et du FCC. C'est vrai, mais l'intérêt supérieur doit primer avant tout. On dit en latin, l'intérêt général et la loi suprême d'un État. Si vraiment on peut tenir compte de ces pays qui doivent avancer, on doit enlever ces intérêts politiques. J'en appelle aux gens du FCC, aux gens du CASH. C'est vrai, il y a des forces politiques, mais laissez au président de la République de nommer des gens compétents, qu'ils soient du FCC, de la société civile ou encore de ceci. Si on ne tient pas compte de cet intérêt général, JR, de l'intérêt supérieur, on respectera le principe qui veut que la politique majoritaire puisse dominer.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Omar. Si je comprends bien, vous rejoignez donc ceux qui estiment que la composition de ce gouvernement doit être le fruit non seulement du jeu des forces politiques, mais également qui tient compte d'autres facteurs historiques, idéologiques, culturels. Voilà, que ça pourrait donner le résultat. Merci beaucoup. Alors, Simon Tsiloulou, vous êtes à Matadi. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour et bonjour à tout le monde, aux auditeurs et à vous également.
Quelle est votre contribution, Simon Tsiloulou?
Oui, ma contribution, je pense qu'on est très mal parti, parce que quand vous voyez la configuration de l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte qu'aucun parti, ni un regroupement qui a obtenu la majorité parlementaire. Alors, lorsque le gouvernement, je parle du gouvernement qui gère les affaires d'État, veut collaborer avec une plateforme informelle qui s'appelle FCC. Informelle, pourquoi? Parce que ça n'a pas un sous-bâtiment juridique qui le donne le droit de se mettre à compétir avec le gouvernement mis en place. Moi, je pense que c'est comme les deux législatives qui sont passées, devrait beaucoup nous inspirer par rapport à la manière de fonctionner. À chaque fois que le président ou le parti présidentiel n'avait pas la majorité, il créait une majorité avec les autres, c'est avec les partis inscrits officiellement qui ont des arrêtés de soubassement juridique. C'est afin que ce parti-là, Palour, Ideco, et ainsi de suite, qui était inscrit et qui avait un sous-bâtiment juridique. Maintenant, là,
on va aller avec une plateforme qui n'a pas de soubassement juridique, et c'est cette plateforme qui va se lier pour gérer les choses.
Oui, mais Simon, je crois que si ma mémoire ne me trahit pas, la plateforme FCC, qui était une plateforme électorale en son temps, c'est mieux aujourd'hui en plateforme politique. Où à son sein, vous avez vu, tous les membres composant cette plateforme ont pu quand même signer leur fidélité à l'autorité morale, à leur autorité morale. Donc je crois que là, le débat ne s'y trouve même plus. Mais la plus grande question aujourd'hui, cette coalition, la composition, les formats, les profils, est-ce qu'elle doit tenir compte simplement de ces forces politiques au Parlement. Sinon, finalement, tout le monde sera servi et le FCC aura la grosse part et même le cash et les autres. Où vont-ils se trouver?
Moi, je pense que s'ils sont là pour la population, déjà, je doute le langage des gens du FCC qui disent que nous contrôlons les assemblées provinciales, nous contrôlons le Sénat. Comment ils les contrôlent? Parce que ce sont des institutions de la République qui doivent se soumettre aux règles et aux principes, aux lois de la République, pas à ce que eux formatent en dehors de ça. Mais je pense que le président de la République a un programme qu'on appelle le peuple d'abord. Le premier ministre qui doit être nommé, nous pensons qu'il doit être un premier ministre qui se mettra à l'abri de pression. Un premier ministre intelligent, sage, un premier ministre qui ne reçoit que les ordres ou les obligations du président. Parce que le président de la République a été élu de manière au suffrage direct et puis par toute la population. Et c'est lui qui est redevable de manière nationale à toute cette population. Donc, le programme à appliquer, c'est le peuple d'abord. Et pour essayer un peu de restreindre les velléités de certaines personnes, moi je pense qu'on doit réduire totalement les trains de vie de ces premiers ministres,
et
de tous ces ministres qui travaillent un peu comme des bénévoles. S'il n'y
voilà.
en a pas, nous allons nous présenter à titre bénévole pour essayer de booster la République.
Voilà. Je crois que si le directeur de cabinet ne se rebiffe pas, en tout cas par rapport à ce qu'il a dit, et les députés et les ministres, ils seront des esclaves du peuple. Donc, c'est-à-dire, on va réduire sensiblement leur train de vie pour permettre à ce que, au prix vraiment des sacrifices, de travailler pour le peuple. Merci beaucoup, Simon Tiloulou, d'avoir appelé et d'avoir contribué dans cette émission. Alors, on revient à vous, Dieudonné Mwenze, vous avez suivi les uns les autres. Quelle est votre réaction?
Monsieur Gire, je voudrais d'abord remercier tous vos auditeurs et les intervenants de tout à l'heure pour l'intérêt qu'ils manifestent par rapport au sujet qui est développé ce jour. C'est une preuve par neuf que réellement les Congolais s'intéressent à la chose politique et voudraient, demain ou après-demain, voir leur vécu quotidien changer. Et j'ai entendu notre compatriote de Kindu. Il est vrai que lorsque l'on parle d'un programme, on dit que ça ne sera pas un programme commun cohérent. Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'il veut dire par un programme non cohérent. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, avant les élections du 30 décembre 2018, tous nous avons eu chacun un programme. Et moi, personnellement, j'ai maîtrisé le programme du FCC. Je n'ai pas trouvé quelque part un paragraphe qui est contre l'intérêt de la population. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut le dire clairement. Puisque même ceux qui prétendent aujourd'hui que le programme du FCC peut-être est contraire au programme du CASH, ils ne pourront peut-être pas dire clairement quel est le paragraphe qui est contraire et qui est contraire également, pas simplement au programme du CASH, mais aussi à l'intérêt de la population congolaise. Je ne pense pas. Mais vous savez, Monsieur Gier, il y a des vérités qu'il faut dire. Vous savez, je n'ai pas généralement ma langue dans la poche. Lorsque je voudrais parler des choses, je le dis clairement. Je ne voudrais pas que vraiment l'opinion comprenne que dans le FCC ou dans l'ancienne majorité présidentielle, MP, il n'y a que des démons et que les saints se trouvent ailleurs. Non. Je crois que nous avons les compétences partout, dans toutes les familles politiques, et même en dehors des classes politiques. Nous avons des compétences. Les Congolais sont compétents. Les Congolais sont des intellectuels avérés. Et ils maîtrisent, nombreux d'ailleurs, maîtrisent la gestion de la chose publique. Mais le problème, c'est le choix des individus. Et on ne peut pas penser également que tous ceux qui viennent de l'opposition aujourd'hui, qui passent aux affaires, tous ce sont sains et que l'on attendra que des bienfaits d'eux. Je crois que là, nous risquons d'être dans un leurre et de nous tromper. Puisqu'à ce moment-là, lorsque nous verrons la gestion, un jour nous allons dire que nous avons été dupés, alors que nous sommes là devant un comportement humain. Le comportement humain, il est ce qu'il est. Je crois qu'il faut savoir apprécier les personnes à partir de leurs œuvres. Nous sommes là dans un programme qui va être commun, mais il est important que le programme ne suffit pas. Il faut pouvoir choisir les hommes et les personnalités compétentes pour pouvoir exécuter ce programme. C'est pour cela que je voulais faire un petit demi-tour pour vous rappeler ce que nous pensons généralement comme profil pour le prochain futur Premier ministre du gouvernement, qui va d'abord au départ être nommé comme formateur du gouvernement. C'est que nous avons retenu 5 critères importants, Monsieur J.R. Il est important que la personne qui va pouvoir prétendre animer le gouvernement de la République, dans un premier temps, soit une personne compétente dans le domaine de la gestion. C'est très important lorsque l'on n'a pas de compétences requises. Je vous dis, malgré toute la bonne foi, on risque de se perdre et de ne pas vouloir répondre aux attentes de la population dans les domaines stricts de la gestion. Le deuxième critère, nous insistons sur l'intégrité morale. On ne peut pas avoir des gens qui n'ont pas de valeurs morales, mais qui prétendent passer à la gestion de la chose publique. Eh bien, nous allons encore grincer les dents et nous allons encore déplorer, comme nous l'avons toujours fait. Pourquoi? Puisque le choix n'a pas été bien fait et qu'il faut nécessairement que ce soit une personne qui a de l'intégrité morale, qui pense que lorsque la personne est dans la société, il y a des valeurs qu'il faut observer. Et toutes ces valeurs sont connues par tout le monde. Donc, je crois qu'il faut que ce critère soit pris en compte. Mais il y a un troisième critère, c'est l'expérience dans la gestion de la chose publique. Je crois que nous ne sommes pas dans une république où il faut des amateurs, des gens qui viennent apprendre. Il faut avoir, le pays est tel que, quand je vois la population, j'entends même vos intervenants, vos auditeurs, les attentes sont tellement immenses, sont même pressantes, je parle des attentes de la population, que nous n'aurons pas besoin d'un amateur ou d'un apprenti pour venir nous passer une année, deux ans en train d'apprendre la gestion de la chose publique. Donc il faut une personne dont la compétence et l'expérience dans cette gestion est déjà avérée au départ pour que nous ne puissions pas perdre le temps, que nous puissions passer à l'essentiel dans la prise en compte des désirs de notre population. Le quatrième critère que nous trouvons également beaucoup plus important, c'est que il faut favoriser, il faut que ce soit une personne qui a des qualités de bonne gouvernance et de l'altruisme, c'est-à-dire quelqu'un qui peut à un certain moment s'oublier lui-même. Puisque vous savez, c'est ça qui a plombé pratiquement la gestion de ce pays depuis un temps où nous avons entendu à gauche à droite décrier la même gestion, la volonté de vouloir s'enrichir rapidement et sans cause. Et lorsque l'on est un premier ministre qui ne pense qu'à lui-même, à sa famille, à son entourage, à son petit clan, il faut avouer que ce premier ministre ne va pas rencontrer les attentes de notre peuple et il faut que ce soit un premier ministre qui reste dans les exigences de la bonne gouvernance en matière de la gestion de la chose publique. Mais le dernier critère, qui est le cinquième que nous avons également retenu, compte tenu de nos réalités politiques actuelles, c'est-à-dire qu'il faut que nous ayons un premier ministre qui ne soit pas conflictuel. Puisque là, nous ne sommes pas dans l'expérience de 2006 ou de 2011, où c'était l'ex-majorité présidentielle qui avait et la présidence et la primature. Ici, c'est une cohabitation entre les deux familles différentes. Et je rappelle toujours qu'une famille était au pouvoir et une autre famille était dans l'opposition. Donc, c'est vous dire que lorsque l'on arrive à cette cohabitation, et la plaque tournante, ça sera le premier ministre. Donc il faut que le premier ministre puisse créer cette symbiose, cette convivialité, cette cohabitation entre les familles, les différentes familles politiques. Donc il faut une personne qui ne soit pas conflictuelle, mais qui comprend que il est, par exemple, cette personne, elle est du DFCC, mais doit comprendre qu'elle n'appartient pas à la même famille politique que le président de la République, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas gérer avec lui. Donc il faut que ces critères-là soient également favorisés. Donc voilà les critères que nous avons réunis pour permettre à ce que ce mariage, tel que je l'ai entendu, rappelé par votre intervenant de Kindu, ce mariage entre FCC et CACH soit possible. Vraiment, mon compatriote de Kindu doit comprendre qu'il n'y a pas de démons dans le FCC. Il y a des bonnes personnes également. Moi, j'en connais plusieurs dans le FCC.
Alors,
personnes qui pensent aussi à l'intérêt général de la
population. Oui, alors, Dieudonné,
peut-être qu'on n'en a peut-être pas encore trouvé assez, mais si on fait un effort, on va dénicher toutes ces compétences et que l'on va mettre au service de la nation. Je remercie Maître Omar de Kinshasa. Ses interventions étaient très pertinentes. Mais je voudrais lui dire que lorsque nous disons, ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs la loi du pays et la constitution, le gouvernement comme le premier ministre sont l'émanation de l'Assemblée nationale. Pourquoi nous le disons? Ce n'est pas dire que nous trouvons des mots pour peut-être contenter ma famille politique, le FCC, non. Je pouvais être même de l'opposition et je dirais la même chose. Hein, je suis un homme indépendant d'esprit, je suis beaucoup plus objectif dans mon raisonnement. Donc, il s'agit d'une émanation dans ce sens que le premier ministre, d'abord, conformément à la Constitution, à l'article 78 de cette Constitution, il doit provenir de la coalition parlementaire majoritaire au Parlement. Ça, c'est ce qui fait déjà qu'il est l'émanation, le premier ministre, de cette Assemblée nationale. Mais le gouvernement, avant d'entrer en fonction, il ne commence pas simplement puisqu'il a été nommé par le, formé par le Premier ministre et nommé par le Président de la République. Non, il faut une cérémonie d'investiture ou à l'Assemblée nationale. Il faut que l'Assemblée nationale écoute le programme du gouvernement, qui n'est plus le programme du Premier ministre. C'est le programme de tout le gouvernement.
Voilà, monsieur Dieudonné.
Il fait les amendements nécessaires et après,
oui, monsieur Dieudonné.
Il peut ou ne pas apporter l'investiture à ce gouvernement.
Oui,
à ce moment-là, le gouvernement a été investi par l'Assemblée nationale. C'est pour cela que nous disons que c'est aussi l'émanation de l'Assemblée nationale.
Oui, monsieur Dieudonné. Monsieur Dieudonné,
qu'il faut évoquer dans la compréhension.
Oui, monsieur Dieudonné, voilà, le temps nous fait.
Pas que l'on pense, s'il vous plaît, monsieur Gérard.
Oui, le temps nous fait défaut. Voilà, on va aller quand même vite. Hein. Je crois que parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'intervenants aussi qui souhaitent participer à cette émission. Permettez-moi quand même de vous interrompre un tout petit peu, le temps d'écouter quelques-uns qui viennent à peine de nous rejoindre. Et ils veulent aussi placer un mot par rapport à cette question parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. J'aimerais bien que nous ramassions tous à la fois avant même la fin de cette émission. Élie Lokwa, vous êtes en Bandaka. Bonjour Élie.
Salut votre invité. Je crois que la nomination du Premier ministre aujourd'hui demeure une question très sine qua non. Donc, parce que les programmes des sociétés pour les présidents de la République doivent être exécutés par le gouvernement. Et donc, le gouvernement, en tant que l'organe d'exécution du projet du président de la République, doit être mise en place aujourd'hui pour que nous puissions faire avancer des choses. Mais je crois que dans les débats, les sujets d'aujourd'hui, parce que l'FCC a déjà déposé entre les mains du président de la République quelques noms de personnes sur qui le président de la République choisira pour nommer comme premier ministre, mais nous devons aujourd'hui changer de livre. On ne peut toujours pas changer de page. Je pense qu'il y a l'adage africain qui dit qu'il ne faut toujours pas changer de page, mais mieux vaut changer de livre. L'ancien régime de M. Kabila, nous décrions la façon de gestion de ces régimes depuis très longtemps, depuis la question au pouvoir de ces régimes. Et la population congolaise décrit chaque jour la façon de gestion de ces régimes.
Oui, Élie Lokwa, il y a un nouveau régime. Aujourd'hui, on attend le gouvernement. Tous les esprits sont d'accord qu'il va falloir travailler en coalition. Mais alors, quel doit être le format de ce gouvernement? C'est cela la question que je vous ai posée. Et quel doit être le profil du Premier ministre, selon vous? Doit-il impérativement sortir du FCC, aussi en tenant compte des forces politiques, ou il faut aller chercher un oiseau rare, un technocrate, même si ce technocrate n'est pas député, n'est pas, disons, un membre influent d'un parti politique, mais même un simple membre d'un parti politique, même du FCC.
Oui, voilà alors l'élément le plus important. Nous devons nous asseoir sur la technocratie. Et donc aujourd'hui, faire joie sur certaines personnes, membres du FCC, des partis politiques, des gens gérés dans l'ancien régime, ça va créer des problèmes pour l'exécution du projet, du programme de société pour le président de la République. Nous sommes un État de beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte, même les pays comme le Rwanda, aujourd'hui considéré comme les pays de la bonne gouvernance, composé de 4 provinces, 26 millions d'habitants. La RDC aujourd'hui, plus de 90 millions d'habitants, plus de 21 provinces aujourd'hui, en tout cas, dont 26 provinces, avoir un budget aujourd'hui des ressources.
Voilà, voilà. Élie Lokwa, on va revenir sur cette question. Élie, voilà, Élie Lokwa, on va revenir. Oui, je crois que cette question-là...
Je vais finir par ici.
Oui, allez-y rapidement.
On disait que le souci pour lequel le peuple congolais s'est assigné, c'est d'avoir un gouvernement soucié de la bonne gouvernance, de la justice distributive, donc la justice équitable. Vous avez suivi hier, honorable Delis Essang, soulever un point important pour les salaires équitables de tous les fonctionnaires. C'est ce que le gouvernement qui va sortir pour l'instant doit exactement faire ensemble pour que nous puissions en tout cas vivre l'harmonie.
Voilà, de l'état des voilà cette question des émoluments, nous allons faire le suivi parce qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui sont ajoutés à ces débats que nous avions estimé vraiment derrière nous. Le fait que le directeur de cabinet du chef de l'État ait intervenu dans sur cette question et a éclairé l'antenne des uns et des autres, je crois que nous allons voir comment formuler et pour soumettre ça également au débat. Et Lilo, merci. Ignace Ndala, vous êtes à Kolwezi. Bonjour et bienvenue, Ignace.
Merci pour la parole que vous m'accordez. Je pense qu'en ce qui concerne le format ou la provenance du Premier ministre, la Constitution l'a déjà tranché comme problème. Mais il faut se dire qu'au niveau du FCC d'où proviendra le Premier ministre, c'est toujours rare. Il n'y a pas seulement de politiciens à proprement parler, des hommes qui sont purement politiques, mais il y a aussi des indépendants, disons des technocrates. Et c'est dans cette boîte des technocrates de l'FCC, du FCC qu'il faudra prendre quelqu'un qui devra avoir pour profil une forte capacité fédératrice des efforts et des énergies de ces gens-là qui sont autour de lui. J'ai dit aussi que ce devait être un homme donc plus technocrate que politique. Et quelqu'un qui a plus de soucis au regard du retard que connaît notre pays par rapport au développement, donc la misère du peuple, et aussi les défis sécuritaires de ce pays. Enfin, je voudrais dire que ça doit être un fin connaisseur des véritables enjeux des différentes provinces dans notre pays, et pour tout dire, un franc collaborateur du chef de l'État qui devra travailler. Mais ce sera, comme on le dit, un gouvernement de constituer des uns et des autres de cette coalition cash-FCC. Voilà comment moi j'en prévois les choses. Donc le grand problème c'est sortir la RDC du retard de développement et du défi du ridicule que nous avons connu face à la communauté internationale et aux régions, les différentes régions communautés dans lesquelles nous nous trouvons par rapport à notre grandeur.
Voilà, merci beaucoup Ignace. Parce que si l'histoire, comme je l'ai dit, il y a des facteurs historiques aussi hein, que nous devons prendre en compte. En 2011, si ma mémoire est très bonne, le PPRD qui avait beaucoup plus de sièges à l'Assemblée nationale, parce qu'il constituait un des membres fluents de l'ancienne majorité présidentielle, est allé chercher Matata Ponyo, qui n'était qu'un technocrate, voilà, la BCECO, ministre des finances, et finalement il a chuté par être premier ministre. Donc c'est, et par la suite on l'a vu à l'œuvre comme membre du PPRD, mais il n'a jamais été secrétaire permanent ou encore membre du bureau politique influent, mais c'est par après, c'est arrivé après, à moins que je me trompe sur mes données. Merci beaucoup. Alors on revient à vous, Dieudonné Mwenze. Honorable, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là, je suis en ligne.
Voilà. Alors maintenant on peut ramasser toutes les réactions des uns et des autres et aller directement en conclusion.
Je voulais préciser, je l'ai entendu, vos auditeurs, les intervenir sur ça plusieurs fois, je l'ai dit et je précise, ça ne veut pas dire lorsque l'on dit que le Premier ministre ou le membre du gouvernement doit provenir des forces politiques en présence, qu'ils doivent être nécessairement du politique actif, Nous l'avons dit à maintes reprises, il faut que l'on cherche des compétences partout et dans la société congolaise. Il y en a également partout, pas simplement dans les familles politiques. Donc, c'est question de pouvoir chercher, fouiner, lorsque ces compétences sont décelées, même dans la société civile, même dans les confessions religieuses, on peut y recourir, mais pourvu que l'on trouve des personnalités compétentes, des personnalités intègres qui puissent nécessairement être à la hauteur des attentes de notre population. Le pays, j'entends, on y revient plusieurs fois. Je crois que ça a été la volonté de plusieurs, même dans l'ex-majorité présidentielle. On a toujours évoqué le cas des trains de mesure. Rappelez-vous des quelques critères ou conditions qui avaient été arrêtées autrefois avec l'ancien chef de l'État par rapport à la diminution des trains de vie. Je crois que ça a été dit clairement. Les efforts avaient été fournis dans ce sens. Peut-être que l'on n'avait pas dégagé les fruits ou les résultats escomptés. Mais ce qui est vrai, c'est que la volonté politique était déjà là. Et aujourd'hui, je salue l'initiative de certains députés qui remettent la question à la surface et pensent qu'il faut nécessairement réduire les vies des institutions, puisque nous l'avons dit et nous les déplorons tous les jours. Il n'est pas possible que nous puissions avoir à peu près une consommation de 2/3 de l'ensemble du budget national seulement à partir du fonctionnement des institutions et de la rémunération de leurs animateurs. C'est injuste. Je crois que cette question est en train d'être abordée plusieurs fois et les futurs animateurs vont pouvoir passer sur la question pour que l'on puisse réellement trouver des solutions idoines. J'entends parler de la coalition FCC-MP. J'insiste là-dessus, vraiment. Et FCC plutôt qu'à. J'insiste là-dessus. Je dis toujours, et je le répète, que les démons ne sont pas dans une de ces deux familles. Les mauvais, comme dans toute autre famille, peuvent se retrouver partout. Comme les bons aussi peuvent se retrouver partout. Et j'ai insisté en disant que au FCC, hein, avec l'ex-majorité présidentielle, comme dans le CASH, il y a de bonnes compétences et de bonnes personnalités que l'on peut trouver pour la gestion de ce pays. Et comme il peut y en avoir aussi de mauvaises personnes que l'on doit éviter pour que les attentes ne soient pas déçues. Je crois que ça, ce sont des vérités qu'il faut reconnaître. Mais dire d'emblée, penser d'emblée que lorsque l'on est dans telle famille, on n'y trouve que des mauvais, des démons, je crois que l'on se sera trompé de cible et l'on aura pensé autrement par rapport à la vérité en présence. Donc voilà un peu ce que nous devrions dire. Monsieur Gier, par rapport aux préoccupations de beaucoup de gens, mais j'ai apaisé Maître Omar en disant que lorsque l'on parle de l'émanation du gouvernement par rapport à l'Assemblée nationale, ça ne veut pas nécessairement dire que les gens qui vont aller à ce gouvernement, qui doivent animer ce gouvernement, doivent nécessairement provenir de cette famille politique-là ou de ces familles politiques-là. Non, ce sont des gens que l'on peut trouver partout, mais pourvu que ce soit des hommes capables de pouvoir faire face aux nombreux défis de notre population.
Voilà, Dieudonné et Mwenze, nous vous remercions d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission, hein, parce que bon, c'est vrai.
C'est à moi de vous remercier, Monsieur Gier.
C'était vraiment un réel plaisir de partager ces moments ensemble avec vous et aussi ensemble avec les auditeurs qui étaient nombreux à commenter et qui ont lu ces sujets sur notre page Facebook. Nous prenons rendez-vous avec l'ensemble des compatriotes demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.